immédiatement pas supporté que je puisse avoir un désir homosexuel. Elle m'a posé la question, vous êtes homosexuel? J'ai dit oui. Et rien n'a empêché que ça se passe. Qu'elle tombe amoureuse de moi, que je tombe amoureux d'elle. Rien n'a été empêché par ça. Sauf qu'elle a vu tout de suite que si elle laissait cette brèche-là s'ouvrir, si elle colmatait pas ça, un en dehors qu'elle ne pouvait pas maîtriser, puisque le désir homosexuel, elle n'a aucune prise dessus, elle ne pouvait pas le supporter. En disant à la fois « la pédérastie, c'est rien », à la fois « vous n'êtes pas homosexuel », à la fois « vous ne désirez que moi ». Immédiatement, elle a vu que c'était là-dessus qu'il fallait être très sévère. J'y vois là une entreprise complètement amoureuse, parce que c'est insupportable quand on est amoureux que l'autre est un autre désir. Mais j'y vois là aussi quelque chose de plus général dans son fonctionnement à elle. Ce qu'elle me demande, c'est de céder sur tous mes désirs.
Autre.
Autre que le désir que j'ai d'elle et qu'elle a de moi.
Claire Simon est ce soir notre invitée à l'occasion de la sortie de son nouveau film intitulé « Vous ne désirez que moi ». Vous venez d'entendre un court extrait du film où Swann Harlow interprète le rôle de Yann Andrea et c'est l'histoire entre Marguerite Duras et Yann Andrea. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Rita Mitsouko.
Love!
Vous avez commencé par faire des études d'ethnologie, Claire Simon. Vous avez appris la langue arabe et la langue berbère. Et votre histoire d'amour avec le cinéma, elle a commencé plutôt bien.
Oui.
Mais tardivement, en fait.
Non. J'ai fait mon premier film, mon premier court-métrage quand j'avais 20 ans. Je faisais tout en même temps. Je faisais des études comme ça, un peu. Et puis, en même temps, j'étais stagiaire monteuse. Et puis, dès que j'avais assez d'argent, j'ai fait ce premier court-métrage.
Mais finalement, l'ethnologie vous a servi, parce qu'on peut dire que vous pratiquez, en tout cas dans le registre cinématographique du documentaire, une forme d'ethnologie, c'est-à-dire un sens de l'observation, un désir d'immersion, un désir de non-jugement, mais de compréhension.
Oui, mais je pense que Coppola aussi, c'est un grand ethnologue. Je pense que le cinéma est par définition un art ethnologique, si on veut. Disons que si on s'intéresse à comment vivent les hommes, les humains, quels sont les rites et les mythes que nous fabriquons continuellement et selon lesquels nous vivons, c'est ça qui m'intéresse, oui. Oui, tout le temps.
Tout le temps, c'est-à-dire que dans la rue ou à la terrasse d'un café, vous regardez tout et tout le monde.
Oui.
Vous êtes une voyeuse.
Non, j'essaye de raconter, d'être à l'écoute de ce que je vois, du récit des gens. Je me souviens, quand j'ai demandé l'avance sur recette pour Gare du Nord, j'avais mis plusieurs phrases, une phrase de Balzac, j'avais inventé une fausse phrase de Chaïne en disant que si il avait toujours été vivant, il aurait filmé la Gare du Nord. Et tout le monde m'a dit, ah bon, c'est vrai, il a dit ça. Et puis, il y a une phrase de Monica Vitti, justement, c'est pour ça que je le dis, qui disait...
Hommage à elle.
Voilà, qui disait dans le désert rouge, « Devo dire que tutto quello che mi capita è la mia vita. » Ça veut dire, je dois dire que tout ce qui m'arrive est ma vie. Alors, ça paraît banal, mais en fait, ça veut dire... Tout ce qui m'arrive, c'est une histoire. Et j'ai du mal à penser que c'est ça mon histoire. Mais pourtant, c'est ça mon histoire. Voilà. Et c'est exactement ce qui m'intéresse.
Alors le film La Gare du Nord était un film qui se passait entièrement justement dans la Gare du Nord. On y voyait aussi bien justement des gens qui dormaient à même les quais la nuit, des clochards. On y voyait des gens pressés qui prenaient des trains. On y voyait des étreintes, on y voyait des pleurs. Et vous qui venez de parler de l'admirable Monica Vitti, c'est une des marques de votre cinéma, Claire Simon. C'est de montrer des histoires individuelles dans un seul et même film.
Oui. Mais la Gare du Nord, par exemple, c'était vraiment la caverne des humains, des mythes. Enfin, j'avais le sentiment que c'était un endroit quasiment mythologique, que c'était la porte des enfers au sens grec du terme, c'est-à-dire puisqu'on part et on revient, donc il y a beaucoup d'idées de mort à la gare, il y a beaucoup de jeunes gens qui traînent, de gens qui viennent mourir à la gare vraiment, ou de gens qui pensent qu'il y a des morts dans la gare, et c'est parce que c'est un lieu de départ et d'arrivée, et puis un lieu où en même temps pour tous. Pour les gens qui n'ont pas de papier, pour les gens qui arrivent de l'Angleterre comme de l'Afrique et qui se croisent. Et donc, cet endroit me paraissait un endroit extraordinaire, à part de la ville, à part de Paris. Et du coup, j'y avais passé beaucoup de temps avec trois assistants où on écoutait ce que les gens racontaient. Les dialogues, et on essayait de reconstruire des histoires avec trois phrases. Et tout le scénario, je l'ai fait à partir de ce qu'on avait glané, comme ça. Y compris, par exemple, le personnage que jouait Nicole Garcia, c'était un personnage que m'avait raconté la bijoutière d'Agatha dans le couloir. Voilà. Donc c'était... Et il y avait une espèce de côté de caverne d'histoire, oui. Parce que c'est... Voilà, disons que je trouve ça très beau, quoi. Voilà.
Je me souviens d'un de vos premiers films qui s'intitulait La Récréation et qui était tout à fait exceptionnel par la qualité de votre regard. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de vous mettre à la hauteur d'eux et se mettre à la hauteur des enfants dans une cour de récréation. J'imagine que ce n'est pas facile.
Si, c'est facile. Et si on est intéressé par ce qu'ils pensent, par ce qu'ils font. Moi, les films, je les ai regardés comme des héros de films, comme des personnages à part entière. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très étrange avec les enfants petits. C'est qu'immédiatement, dès qu'on les filme, et même d'ailleurs dès qu'on les regarde, ils sont des personnages qui n'ont pas d'âge. Bien sûr, on sait qu'ils vont grandir. Mais en fait, ils sont des héros. Des héros, voilà. Et il y avait une petite fille, par exemple, qui faisait... qui obligeait toutes les autres à aller lui chercher des bâtons. Et j'avais l'impression qu'elle avait 50 ans, qu'elle était une patronne de qu'elle était dans, je sais pas, au Galeries Lafayette, caissière, ou je sais pas quoi. Voilà. Et donc, moi, j'étais hyper intéressée par ce qui se passait entre les enfants. Et je voyais qu'ils cherchaient tout le temps une histoire qui marche entre eux. Pourvu qu'une histoire marche, quoi. Parfois à n'importe quel prix, mais il faut évidemment il y a de la violence. Il faut pas que je filmais beaucoup un garçon par exemple Alexandre qui jouait très bien tout seul, ce qui exaspérait tout le monde. Donc tout le monde venait le voler, etc. Parce qu'il ramassait des bâtons. Les bâtons c'était vraiment la richesse de. Mais pour moi c'était passionnant et tout à fait. Enfin ça me paraissait pas. Difficile, c'est ce qui m'intéresse.
Tout peut faire cinéma pour vous, Claire Simon? Tout peut devenir cinéma à condition qu'on sache regarder?
Oh oui, enfin... Mais vous savez, quand même, les enfants, c'est pas tout. C'est extraordinaire. Enfin... comment des enfants jouent, je pense que c'est une des choses les plus importantes sur la Terre, quoi. Parce que d'abord, les enfants, c'est le futur. Et que eux, ils connaissent ce qui va se passer dans 50 ans. C'est en eux. Donc, c'est hyper important, quoi, de comprendre comment ils jouent, ce qu'ils pensent, comment ils luttent contre des désirs qui sont pas civilisés. Parce qu'ils savent très, c'est très civilisé. Les enfants de la maternelle, ils savent très bien ce qu'il faut faire et pas faire. Et donc, voilà. Quand je réagis quand vous dites tout, parce que je sais pas. Oui, en tout cas,
par exemple. En tout cas, tout ce que vous vivez peut faire cinéma. D'ailleurs, vous l'avez montré. Vous qui n'avez jamais appris le cinéma, vous l'avez enseigné dans une institution très prestigieuse, puisque c'est la FEMIS, la plus grande école de cinéma en France. Et vous avez fait un film sur comment on sélectionne les futurs étudiants qui seront intégrés dans cette école où il est si difficile d'entrer?
Le concours d'entrée, oui, le concours. Oui, ben justement, quand vous dites tout, c'est-à-dire que, justement, ben quand j'étais dans des réunions à la FEMIS, et je me disais, mais en fait, c'est ça la vie, il faut être capable de filmer ça, quoi. Il faut être capable de filmer qui on est, nous, tous autour de la table, qu'est-ce qu'on a comme désir, qu'est-ce qu'on fabrique comme société, qu'est-ce que... Et puis le jour où... donc heureusement, c'était Marc Nicolas, le directeur de l'école à ce moment-là, qui était un homme exceptionnel. Et lui, il m'a fait totalement confiance.
Donc vous avez une caméra dans la tête absolument tout le temps?
Je sais pas si c'est une caméra. C'est-à-dire que là, par exemple, pour ce qui est de la FEMIS, c'était vraiment un truc... ethnologique et littéraire, si vous voulez. Je me disais, bah, si Marcel Proust était vivant, c'est ça qu'il décrirait. Voilà. Je me disais, c'est très important, en fait. Et puis, plus on a l'impression qu'on est dans des coulisses, que c'est pas important, plus, en fait, c'est assez intéressant. Voilà. Et Marc Nicolas, il m'a beaucoup aidé à ce que je puisse faire ce film qui n'était pas tout à fait, accepté par les professionnels de la profession. Et je me souviens, je voulais juste dire ça, c'est que le premier jour où j'ai tourné, c'était la journée porte ouverte. Et donc, j'étais au-dessus, en face de la grille, mais un peu loin. Et je vois le Jean-Marc Vernier, qui était le responsable du concours, qui va voir le gardien. Donc Jean-Marc Vernier est blanc, il va voir le gardien qui est noir. Ils vont tous les deux vers la grille. Le gardien ouvre la grille et il y a 3-4 personnes devant la grille. Et tout d'un coup, au moment où la grille s'ouvre, il y a des gens et des gens et des jeunes et des jeunes et des jeunes et des jeunes qui rentrent, quoi. Et tout d'un coup, ça devient énorme. Et c'était incroyable. J'étais complètement bouleversée en tournant le plan et je me suis dit, ben voilà. C'est-à-dire que les jeunes, ils vont à l'assaut du château fort, quoi. Ils veulent rentrer dans la citadelle. Et c'est ça qu'il faut raconter.
C'est-à-dire que de l'observation du quotidien, Claire Simon, depuis maintenant des décennies, vous arrivez à faire de la mythologie du quotidien.
J'espère. Enfin, disons que je suis intéressée par ça, oui.
Je vous propose d'écouter la voix de Agnès Varda. Vous avez prononcé le mot de glaneuse tout à l'heure. On se souvient de ce si beau film,
magnifique.
Les glaneurs et les glaneuses. Je vous propose d'écouter la voix d'Agnès Varda à propos de sa manière de filmer les gens. C'était le 4 mars 2019.
Ah ben oui, mais tu sais, j'ai commencé avec des appareils archaïques de photos. Et puis après, évidemment, je peux passer à des choses. Et mais quand il y a eu ces petites caméras, je me suis jeté dessus. Parce que non seulement c'est facile et amusant, mais c'est une autre façon d'aborder les gens. C'est que c'est pas la technique qui est importante. C'est comment un moyen nouveau te fait faire une autre approche de ce que tu vois, des gens que tu rencontres et tout ça. J'aurais pas pu faire les glaneurs s'il n'y avait pas les petites caméras où je pouvais filmer et souvent toute seule. Mais comme c'est un petit appareil, ça fait moins peur. Et puis en plus, leur dire ce que je fais. Je me positionne toujours comme quelqu'un qui fait un documentaire et qui souvent vit dans des conditions bien meilleures qu'eux, mais qui a choisi ce métier. Donc, il y a quand même un partage de réflexion, parce qu'il ne s'agit pas de voler des images, tu vois. Il s'agit d'avoir l'accord de ceux qui comprennent que de montrer leurs difficultés, peut-être, fait penser les autres, fait penser autrement. C'est toujours les points de vue qu'on a, moi-même, où j'apprends à faire glisser mon point de vue autrement, par quelque chose qu'on m'a dit, par quelqu'un qui m'a appris ou quelqu'un qui m'a ouvert une porte. Et donc, j'allais dire que la curiosité n'est pas un vilain défaut. La curiosité est une incroyable, un moteur d'apprendre et puis de se contenter aussi.
Vous êtes d'accord avec les propos d'Agnès Varda, Claire Simon?
Ah oui, oui, oui. J'admire beaucoup Agnès Varda. Je lui ai dit d'ailleurs. Et elle aimait beaucoup récréation. Et il y a une scène magnifique dans Les Glaneurs, c'est quand la caméra tourne toute seule, elle appelle ça la danse du capuchon, où on voit le capuchon de la caméra qui... Elle avait une immense liberté tout le temps. C'est sans doute celle de la Nouvelle Vague qui a eu la plus grande liberté, je pense. Comme c'était une femme, on s'en est pas totalement rendu compte. Mais non, je suis totalement d'accord. Et surtout sur la question de la technique, bien sûr. Moi, j'ai toujours, je prends toujours la dernière caméra qui existe. J'ai travaillé sur tous les médiums possibles et imaginables. Voilà, parce que au fond, je suis un artisan et je travaille avec, je m'adapte à chaque nouvel outil, quoi. Et c'est toujours une aventure de l'outil. Et c'est vrai, je dirais, un peu à la différence d'elle, que quand on tourne en documentaire ou en fiction, c'est un peu la même chose. Je fais quelque chose avec la personne que je filme qui est plus grand que nous. Voilà. Et on le sait, tous les deux, ou tous les quatre, ou tous les... Voilà, on sait quand je filme quelqu'un, c'est pareil. On sait qu'on fait quelque chose ensemble, que d'autres inconnus vont voir. Et que, du coup, on est content de faire ça. C'est une sublimation, quoi, qu'on fait ensemble. Voilà, c'est pareil avec Swan que avec quelqu'un que je rencontre dans le bois. Il y a quelque chose, on fait quelque chose qui est plus grand que nous.
Alors Swan, c'est Swan Arlo qui interprète merveilleusement le personnage de Yann Andrea. Et Le Bois, c'est le film que vous avez fait en 2016, Claire Simon, qui s'intitulait Les Bois dont les rêves sont faits. Et par rapport à ce qu'on a entendu tout de suite d'Agnès Varda, qui disait qu'elle était transformée quelquefois par des tournages qu'elle avait faits, notamment à la fin des Glaneurs. Il y a ce personnage tellement digne qui, dans sa pauvreté, nous donne des leçons de dignité. Et quand on voit le film Les Bois dont les rêves sont faits, je me suis demandé si vous aussi, comme Agnès Varda, vous n'aviez pas été modifiée, voire même transformée par certaines personnes que vous avez rencontrées dans ce bois.
Ah, tout le temps, oui, 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 oui. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, que ce soit Stéphanie qui était prostituée, que ce soit Daniel qui faisait du, qui était un ancien militaire, que ce soit tout les gens de la Guinée-Bissau qui faisaient des fêtes, qui se retrouvaient tous les samedis, les pique-niques de la Guinée-Bissau, les cyclistes, et puis celui qui élevait ses pigeons, qui s'occupait des poubelles, et puis Philippe surtout, celui qui vivait dans sa cabane. Mais chaque personne, ce qui était extraordinairement heureux pour moi dans le bois, c'est que les gens, il y a eu un miracle qui s'est passé, c'est que chaque fois les gens me parlaient comme si j'étais stagiaire de leur vie. C'est-à-dire comme si j'allais devenir prostituée ou homosexuelle ou que j'allais devenir voyeur ou que j'allais devenir... Et donc ils me montraient un peu, c'est comme si je faisais un stage pour apprendre à être SDF, voilà. Et ça, c'était très très heureux, ouais. Ce rapport-là, vous voyez, de stagiaire.
Mais c'est pas mal d'être stagiaire de leur propre vie, c'est une belle définition du cinéma. Mais à l'intérieur de votre cinématographie, Claire Simon, il y a des documentaires, il y a des récits, il y a des courts-métrages, et il y a des longs-métrages de fiction. Et parmi les longs-métrages de fiction, entre guillemets, parce que en vous cohabitent la fiction et le documentaire, et finalement le documentaire est peut-être plus fictionnel que la fiction elle-même, car vous savez déplacer les lignes et vous avez depuis longtemps brouillé les pistes, mais il y avait en 2008 un film extrêmement important qui s'intitulait « Les bureaux de Dieu » et qui était un film sur l'apprentissage par les femmes, avec les femmes, pour les femmes, de leur propre corps.
Oui.
Est-ce que vous vous diriez, vous aussi, cinéaste, militante, féministe?
Oui, oui, oui. En tout cas, ce film a été très important et passionnant à faire.
Et là aussi, on revient à Varda, avec L'une chante, l'autre pas, où c'était une sorte de proclamation de féminisme.
Oui, puis je dirais aussi que, par chance, enfin, c'est-à-dire que, comme j'ai récolté pendant plusieurs années des entretiens au son, et ensuite je les ai décryptés, remis en scène avec des actrices connues et des non-professionnels, j'ai eu l'impression aussi de fabriquer une archive, c'est-à-dire de montrer ce que c'était vraiment le planning, parce qu'on pouvait pas filmer, on ne peut pas filmer au planning à juste titre.
Donc les bureaux de Dieu, c'est les bureaux du planning familial.
Ouais, parce qu'on vient dans l'anonymat, et donc de dire aux gens, je vais vous flouter, ou ça n'a plus aucun intérêt. Tandis que moi, j'avais beaucoup enregistré des entretiens, j'avais été stagiaire, conseillère conjugale, c'est comme ça que s'appellent les femmes du planning, leur métier. Mais, et donc, c'est là que j'ai découvert, sans doute, l'extraordinaire puissance de l'écoute. C'est-à-dire du fait que, Quand je faisais mon stage ou que j'enregistrais, parfois j'avais l'impression que quelqu'un venait et disait ma vie, mais exactement avec des détails précis, anecdotiques et tout. Alors j'en parlais aux conseillères, je disais mais c'est dingue quoi. Elle a raconté un truc qui m'est complètement. Elle dit ouais ça m'arrive tous les jours quoi. Voilà. Et donc il y avait et puis j'ai vu aussi comment elle.
Donc vous parlez de vous aussi en parlant des autres tout le temps.
Oui. Mais ça fait rien. Enfin, bien sûr. Mais c'était extraordinaire de voir la force de l'écoute. Comment et aussi de voir comment l'écoute dirigeait la parole. C'est une chose que je trouvais très très intéressante, ouais.
Dans l'avant-dernier film, qui s'intitule Le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde, tourné en 2021 dans un petit village chéri des cinéphiles et notamment des cinéphiles qui aiment les documentaires, puisque ce village s'appelle Lussas et que tous les étés se déroulent pendant plus d'une semaine les états documentaires de Lussas où viennent des cinéastes du monde entier.
Absolument.
Pour regarder les films des uns des autres. C'est donc un atelier de pensée, c'est un atelier de regard, c'est un atelier d'échange et c'est le lieu que vous avez choisi, Claire Simon, pour pouvoir filmer finalement, peut-être une des questions qui se posent, c'est l'avenir du cinéma.
Oui.
Qu'est-ce que ça va devenir le cinéma avec toutes ces plateformes, avec Internet, etc.
Je sais pas. On est un peu inquiet de ça, mais en tout cas à Lussas, ils ont devancé. C'est-à-dire que Jean-Marie Barbe a toujours beaucoup de longueur d'avance, le fondateur des États généraux du documentaire à Lussas, et donc il a pensé inventer cette plateforme Tank pour montrer un cinéma qui est peu connu et qui est surtout pas maintenu. Enfin, même s'il y a quand même 30% des films qui sortent en salle sont des documentaires en France, ce qui est pas rien, quoi. C'est important aussi de se souvenir des films et c'est pas toujours, ils sont pas toujours accessibles, etc. Donc Tank répond beaucoup à ça, mais surtout Lussas, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même la plus grande vidéothèque du monde de documentaires. Il y a un master de documentaires avec des étudiants en production et en réalisation. Et puis il y a des distributeurs, il y a ce qu'on appelle un village documentaire. Et donc, il y a eu la construction de ce bâtiment pour le documentaire. Et je crois que ça n'existe que à Lussas dans le monde, qu'il y ait un bâtiment dédié au documentaire. Et qui s'appelle, d'ailleurs, l'imaginaire. Ce qui est drôle, quoi. Voilà. C'est un endroit qui est très, très, très précieux. Et il faudrait surtout pas que ça s'abîme, quoi. Il faudrait que ça se développe.
C'est pour ça que vous le filmez. Claire Simon sort cette semaine un film magnifique qui s'intitule « Vous ne désirez que moi ». Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Claire Simon qui est justement une chanson qu'on entend dans ce film. Elle est signée Nicolas Repac et elle s'intitule « Amnésie Dance Floor ».
Avec Marguerite, c'est une proposition énorme. Une femme, pour la première fois, s'offrait à moi complètement, en me disant « Je suis là, faites de moi ce que vous voulez. » C'est une extraordinaire jouissance de pouvoir posséder, enfin, de pouvoir être en position, de pouvoir dominer quelqu'un complètement. Ça, c'est elle, ça. Et c'est la première fois que ça m'arrivait. Et là, il n'y avait pas du tout une question d'âge. C'était la rencontre avec la femme complètement. Et pour moi, ce sentiment énorme, se sentir être un homme, finalement... Je crois que je n'avais jamais fait l'amour avant de la rencontrer. Et finalement, je suis arrivé naïvement. On pourrait dire innocemment et vierge. Je ne savais pas ce que c'était que jouir vraiment, que d'avoir un corps avec lequel tu puisses faire ce que tu veux. C'était la première fois que je vivais ça. Dans un premier temps, enfin pas dans un premier temps, peut-être tout le temps, mais c'était une espèce de peur, d'épouvante de rencontrer une femme. La femme, ça fait peur.
Quand il crie, j'ai très peur. Il est où, Yann ?
Vous avez des mots terribles à son égard quand vous dites que quelquefois, quelques secondes dans la journée, il peut devenir un tueur de femmes.
Oui. Mais il est homosexuel. C'est dans la nature de l'homosexualité.
Vous pensez que les hétérosexuels n'ont pas ces réactions ?
Ils les ont, mais ils ne tuent pas pour tuer. Si vous voulez, la violence des hommes non homosexuels est une violence générale. Ils tueraient aussi bien leur cuisinière, leur bonne à tout faire, leur fils, voilà, c'est des tueurs. Mais les gens qui ont envie de tuer les femmes, c'est vraiment les homosexuels. C'est un sauvage, Yann. Il est très poli, très gentil. Adorable, mais c'est un sauvage.
Mais chez lui, comme chez le petit garçon, il y a une grande douceur en même temps.
Absolue. Une douceur absolue.
C'est quoi la douceur absolue ?
C'est Yann. Et en même temps, il est terrible aussi. Mais vous avez cette habitude, disons, de lire des livres qui vous portent à croire qu'il y a un centre, un départ. Je suis partie d'un non-lieu dans ce livre. Je n'ai pas voulu parler de Yann, spécialement. Ça partait avec Yann. À partir de la projection d'India Song à Caen, à partir des lettres, des billets qu'il m'envoyait, je suis sortie d'une solitude qui durait depuis 14 ans.
Mais une solitude que vous aviez voulu, que vous aviez choisie aussi.
Que j'aimais. Mais c'est vrai que je ne pouvais plus supporter du tout de vivre simplement avec quelqu'un. J'ai un mauvais caractère, moi. C'est pas grave d'avoir un mauvais caractère. Mais je l'ai. Donc il vaut mieux que je sois seule. Il valait mieux à ce moment-là. J'en ai marre d'un coup. Les scènes que... Vous savez, les mecs, ils sont jaloux des livres qu'on fait. Yann, il est bien tranquille quand je fais un livre. Je fous la paix. Mais c'est très intime tout ce que je vous dis. Comment vous allez vous débrouiller avec ça ? Sans être impudique.
Nous avons entendu successivement donc la musique de Nicolas Repas qu'on entend dans votre film qui sort en ce moment, Vous ne désirez que moi, Claire Simon. Puis ensuite, nous avons entendu l'interprétation par Swann Harlow de Yann Andrea dans ce film qui sort. Et ensuite, nous venons d'entendre au micro de Patricia Martin, c'était le 21 juillet 1992, Marguerite Duras qui parlait de Yann Andrea au moment de la publication de son livre intitulé Yann Andrea Steiner. Donc sort ce film, là vous quittez le documentaire, vous faites un film, si c'est peut-être un documentaire sur l'amour fou, au fond aussi. En tout cas c'est une histoire vraie, vous avez adapté une histoire de parole au départ. C'est-à-dire qu'une voisine et amie, journaliste et écrivaine de Marguerite Duras, qui habitait aussi Naufle-le-Château, qui s'appelait Michel Manceau, qui est interprété magnifiquement par Emmanuel De Vos. Michel Manceau a été, si j'ai bien compris le début de votre film, Claire Simon, appelé par Yann Andrea, qui lui a demandé « Est-ce que tu voudrais pas venir m'enregistrer, me poser des questions sur ma relation avec Marguerite ?» Et c'est ainsi qu'a commencé ce dialogue sur bande magnétique. Que s'est-il passé ?
Oui, c'est ça. Dans le livre qu'elle a écrit, Michel Mansou, qui s'appelle L'Ami, elle raconte que il allait très mal, qu'il était à Trouville, il lui a dit, je vais me suicider. Elle lui a dit, mais t'as quoi pour te suicider? Des comprimés, c'est quoi? Elle a dit, oh non, ça va jamais marcher, tu ferais mieux de revenir à Naufles. J'ai des trucs, si tu veux vraiment te suicider, j'ai des trucs. Et donc, il est revenu à Naufles, et au bout de 3 jours, Marguerite Duras a appelé Michel Mansour en lui disant, il est rentré, il dit rien, et tout, vient déjeuner, c'est insupportable, voilà. Donc, elle est allée déjeuner, et là, Yann est arrivé en disant, voilà, je voudrais que tu m'enregistres, que tu m'interviewes tous les jours. Parce que je n'arrive pas, Marguerite ne m'écoute pas, il faut que j'arrive à dire ce que je traverse, etc. Et Michel Mansou a dit, non, mais attends, moi je travaille, je peux pas t'enregistrer tous les jours, etc. Et Marguerite a dit, mais au moins une fois ou deux, ce serait bien, quoi. Enfin, c'est ce que raconte Michel Mansou. Donc c'est cette une fois ou deux qui a eu lieu, et ces cassettes qui ont été retranscrites par la sœur de Yann ensuite, et qui ont été publiées en 2016, et que j'ai adaptées rigoureusement, comme avec l'idée de me dire d'abord je trouvais le contenu de cet entretien exceptionnel, d'intelligence, de description, de l'amour, de la passion, de ce que c'est que avec une inversion des rôles homme-femme, avec ce que c'était que de s'adorer et d'être dominé, et d'accepter, pourquoi on accepte par amour, des tas de choses qu'on n'accepterait jamais, normalement. Voilà. Et surtout la lucidité de Yann Andrea, son intelligence. Et puis, par rapport à l'idée que, je sais pas, que j'avais l'impression qu'il existait, on voyait que c'était une vraie passion charnelle, qu'il y avait eu une vraie rencontre, qu'au fond, la question de l'âge était totalement secondaire, que c'était une rencontre, alors d'abord littéraire, mais qui est devenue une passion amoureuse. Et aussi cette passion qui voulait aller vers la perfection et qui donc, là, les ennuis n'arrêtent pas d'arriver. Donc, j'ai eu envie vraiment de me servir, d'honorer cet entretien, de le faire jouer le plus sincèrement et d'en faire une conversation. Parce qu'on dit, oui, alors, un entretien. Mais enfin, quand même, dans les films, il y a des dialogues tout le temps. Donc, je veux dire, moi, j'ai essayé de faire en sorte que ce dialogue soit complètement cinématographique et qu'on ait le sentiment, comme Emmanuel De Vos, qu'on écoute, qu'on se demande ce qu'on en pense, etc., qui joue Michel Mansou, et de voir ce qu'elle se représente. Parce que vous me disiez, ben voilà, moi, quand j'écoute quelqu'un qui me raconte un truc, je vois ce qu'il me raconte tout le temps, ou ce qu'elle me raconte, je vois les scènes. Et donc, j'ai essayé de montrer un peu les scènes qu'elle voyait et de me servir de la structure magnifique de cet entretien comme structure d'un film. Voilà.
Alors, ce film est d'une justesse incroyable. D'abord, grâce à l'interprétation à la fois de Swann Arlo et d'Emmanuel De Vos, mais aussi grâce à votre qualité de cinéaste, Claire Simon. Vous n'avez pas choisi de faire une fiction autour du Duras et du mythe Duras, mais au contraire d'essayer d'honorer ce qu'elle fut et ce qu'on peut encore en comprendre quand on lit ses bouquins ou quand on voit ses films. Et donc vous avez choisi de ne mettre que des documentaires du temps de Duras où on voit la vraie Duras. Là, il n'y a pas de comédien pour jouer Duras.
Non, parce que pour moi, là, dans cette histoire, c'est le réel Duras. Elle, c'est son nom. D'ailleurs, c'est le nom, la fonction du nom pour le personnage de Yann Andrea. Et puis,
c'est Duras qui a appelé Yann Andrea. Yann Andrea.
Oui, il s'appelait Yann Lemay. Yann Lemay. Oui. Et donc. Sa notoriété, et c'est pas que la notoriété, le fait que c'était une grande artiste, fait que, bien sûr, elle est très bien jouée par Jeanne Moreau dans le film de José Dayan, mais Moi, j'avais l'impression que c'était très important qu'il y ait une partie de réel. Et pour ça, je me suis référée à, il y a un film que j'aime beaucoup de Stephen Frears qui s'appelle The Queen, où, qui est autour de la mort de Lady Di, et tout le monde joue les personnages, sauf Lady Di qui n'est qu'en archive. Voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais faire, que j'allais l'imiter. C'est ça, les maîtres, on les imite. Donc, voilà. J'ai fait ça, ce qui permettait de montrer aussi que tout ce qui pouvait être reconstruit était malgré tout vrai. C'est-à-dire que, par exemple, quand lui dit « Voilà, elle me dirige, elle m'a appris à parler, etc. Mais alors, elle me bombarde d'ordres et puis elle n'est pas contente, elle me dit « Sinon, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous vous asseyez. » Et voilà. Et on voit dans une scène qu'elle est en train de dire exactement ce qu'il dit. Donc, il y a quelque chose de la, du fait que c'est, on comprend que c'est vrai, que c'est pas lui qui délire quand même. Parce qu'on pourrait penser, parfois, que c'est lui qui interprète.
À un moment dans le film, et ça c'est ce que Yann Andrea a dit donc à Michel Manceau, interprété par Emmanuel Devos dans votre film, Claire Simon, il dit, je crois, Marguerite m'a décréé pour mieux me créer.
Non, elle lui dit, je veux vous décréer pour vous recréer.
Alors ça veut dire quoi ça? C'est la définition de l'amour, selon vous?
Selon Marguerite, peut-être, mais lui, c'est-à-dire que c'est cette question qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que moi? Est-ce que j'existe? Est-ce que j'existe pas? Il est devant ce tremblement que je pense chacun de nous a traversé à un moment de passion en se disant je l'aime tellement l'autre que est-ce que j'existe moi? Qu'est-ce que c'est que moi? Mais elle pousse très loin parce que elle veut aussi qu'il soit l'amant parfait. Donc elle veut elle lui met ses habits, elle veut tant qu'il ne résiste pas. Et d'une certaine manière, cet entretien est une forme de résistance. Là, il résiste. À nommer ce qui lui arrive, il résiste.
Je vous propose d'écouter la voix de Yann Andrea. C'était au micro de Bernard Pivot et c'était à propos de l'écriture et évidemment de Marguerite Duras, la voix du vrai Yann Andrea, oui. Le 17 septembre 1999.
Mais ce qu'on préfère à tout, c'est écrire au fond. Parce que ça arrive souvent dans des couples, disons, des scènes, des poireaux, tout ça. C'est pas très original. Mais là, ce qu'il y avait de particulier, c'est que il y avait quelque chose qui s'inventait, justement, qui a à faire avec de la vérité.
Vous parlez peu.
Si, mais oui. D'autres choses. Parce que, au fond, j'ai une difficulté à parler de ça, parce que oui. Ça me met. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire ce livre.
Oui. C'est difficile d'en parler aujourd'hui.
Mais oui. Bien sûr.
Pourquoi? Impudeur?
Oui. Non, puis c'est pas ça, le livre, c'est pas ça.
C'est quoi le livre? Là, il me semble l'entendre.
Parce que même la façon dont vous avez lu, par exemple, oui. Là, vous avez mimé quelque chose. Moi, si je vous le lis, ça aura un autre sens.
Très beau passage sur l'écriture, oui. C'est ce qui est souligné en vert, oui. Qui commence en bas jusqu'en haut.
Ah oui. Elle ne sait pas qui écrit. Jusqu'au dernier jour, elle dit ça. Je ne sais pas qui écrit. Je ne sais pas ce que c'est écrire. Et cependant, elle écrit. Elle fait ça chaque jour de sa vie. Même quand elle n'écrit pas, elle écrit. Elle voit quelque chose. C'est irrésistible. Elle sait que ce n'est pas la peine. Que jamais écrire ne tiendra lieu d'absolu. Que jamais Dieu ne sera atteint. Et cependant, il faut le faire, tenter cette humilité de tous les jours, écrire. Essayez d'atteindre le mot.
Nous venons d'entendre cette archive très émouvante. Donc, c'était au micro de Bernard Pivot en 1999, au moment de la publication du livre de Yann Andrea sur son histoire avec Marguerite. Mais au-delà de l'histoire de Marguerite Duras, pour les personnes qui n'auraient jamais lu Marguerite Duras et qui ne savent pas qui c'est, je pense que votre film qui sort en ce moment, Claire Simon, est un film sur la définition de l'amour fou, sur la possibilité d'être transformé, cannibalisé, peut-être mort d'amour pour mieux renaître, et qui a une universalité à l'intérieur de cette histoire.
Oui, c'est la... enfin, je vous remercie de le dire, parce que c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait le film, c'est-à-dire que je pense qu'il est que cet entretien, en tout cas, touche tout le temps à l'universel, et que ce qui m'a décidé de le faire, comme c'est ce qui a décidé Swann de jouer, ou d'Emmanuel, de jouer ces personnages, c'est parce que moi je me disais tout le temps, mais oui, j'ai déjà pensé ça, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà, qu'est-ce que c'est que moi, qu'est-ce que c'est...
Nous les femmes, on se reconnaît plus dans les propos plus. De Yann Andréa.
Bien sûr, parce que c'est un film où le rapport de pouvoir est inversé, et c'est merveilleux, parce que justement, comme c'est un homme, il a la culture du patriarcat avec lui, et il peut nommer ce qui lui arrive parce qu'il est du camp des dominants, donc il peut le nommer. Et il peut ne pas se faire voir comme une victime, il décrit, il dit « mais pourquoi je cède ?» Ben parce que c'est plus confortable, en fait, de céder. Elle est la vérité, et moi, je suis... Voilà, donc toutes ces choses...
Et moi, je suis rien.
Voilà, moi, je ne suis rien. Et c'est vraiment très, très intéressant d'avoir cette parole de quelqu'un d'extrêmement brillant et intelligent qui décrit ce que c'est que celui qui... Alors, lui, il n'aime pas le mot soumission, on peut dire qu'il accepte la domination de l'autre. Et c'est quelque chose qui arrive quand même tous les jours à tout le monde, quoi. Enfin, il me semble. Ces rapports de force dans l'amour. Et moi, j'ai l'impression que c'est très important aussi de faire entendre la parole d'un homme qui était dans une situation de faiblesse, et parce que on croit que les gens faibles sont bêtes, et c'est très exactement le contraire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, tout simplement parce qu'il parle, il prend du pouvoir, de la puissance plus que du pouvoir. Il prend puissance sur lui-même. Mais c'est très important d'entendre cette parole-là, moi je trouve.
Yann Andréa sera au chevet de Marguerite Duras jusqu'à son dernier souffle. Il s'occupera d'elle dans tous les sens du terme, au sens médical, au sens nourricier, mais aussi au sens littéraire, puisque le dernier ouvrage de Marguerite Duras sera tapé à la machine par Yann Andréa et s'intitulera « C'est tout » pour ouais. Suspension. De cela, on ne le sait pas à l'intérieur de votre film. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas non plus, si le fait d'avoir parlé à quelqu'un d'autre qu'à Marguerite l'a un tout petit peu aidé à mieux vivre sa vie.
Oui, on ne sait pas du tout, puisque ces cassettes, il n'a jamais voulu les récupérer. Et voilà, on ne sait pas. Et puis cet enregistrement a lieu, ça fait 2 ans seulement qu'ils se connaissent, c'est en 82. Voilà, et je pense...
Et l'histoire quand... d'amour durera jusqu'au dernier souffle de Marguerite.
Voilà, 16 ans. Et je pense que quand on entend Yann lire là dans l'entretien avec Pivot, on voit qu'il est marqué par le phrasé de Marguerite aussi, Duras. Alors que là...
Ce n'est pas pour autant qu'il écrira comme elle et qu'il deviendra son substitut ou son fantôme.
Non, non. Mais je trouve que dans l'entretien, qui est un entretien oral, qui n'est pas de l'écrit, il est totalement, enfin, il est quelqu'un totalement lui-même, quoi. Il n'y a rien qui ressemble à une phrase de Marguerite Duras dans ce qu'il dit.
Ben, merci infiniment, Claire Simon, pour ce très beau film qui sort cette semaine et qui s'intitule, très beau titre aussi, mais titre de Marguerite Duras, c'est ce qu'elle répétait à son amant Yann Andréa, « Vous ne désirez que moi ».
Non, me regarde pas dans les yeux, je veux pas que tu vois, que j'y vois que toi dans les deux, que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche, mine de rien je tiens pas bien sûr, mais tout.